Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à bord du pédalo. Ce soir au programme, une interview bien dense, une émission bien dense, puisque nous avons à nos micros monsieur Jean-Marc Bozani, responsable syndical de la CGT, qui est à l'origine de la coupure d'électricité qui a touché Angers il y a 2 semaines. Il sera avec nous pour répondre à nos questions, à Elisa et à moi-même.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Salut Elisa.
Salut Hugo.
Aujourd'hui, tu interviews Jean-Marc Bozani, le représentant Pays de la Loire CGT Mines et Énergie. Et on va revenir ensemble sur la coupure d'électricité qui s'est produite à Angers et dans son agglomération le 2 juin dernier.
Oui, effectivement. Merci Hugo. Cette coupure a perturbé toute la ville pendant près de 2 heures. Les gens étaient bloqués dans les ascenseurs, les feux tricolores étaient éteints. Les gens se sont beaucoup retrouvés au chômage technique. Il est finalement apparu que cette coupure avait été provoquée par les agents du réseau de transport d'électricité qui étaient intervenus sur les outils de travail. Donc, bonjour Monsieur Bozani.
Bonjour.
Première question, vous étiez le 2 juin dernier devant les locaux d'Enedis. Racontez-nous un peu cette journée, comment ça s'est passé ?
Eh bien, c'était une énième journée de mobilisation sur les questions de pouvoir d'achat et de répartition des richesses dans les entreprises des industries électriques et gazières. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, il y avait une énième provocation des employeurs du RTE avec des convocations en procédure disciplinaire de 4 agents et maintenant 5 du RTE de Saumur. Ce qui fait qu'en effet, vu qu'ils étaient sur leur 14e semaine de grève pour exiger 5% de revalorisation des salaires et la prise en compte des qualifications, l'Assemblée Générale du Personnel, au vu des éléments, du comportement inacceptable des employeurs depuis le mois de février, de la surdité des représentants du gouvernement, puisque sachez qu'au mois de mars, l'ensemble des préfectures de la région Pays-Loire ont reçu un courrier, ainsi que les principaux médias nationaux, stipulant la difficulté de la négociation dans l'entreprise, et le fait que si ça continuait, entre guillemets, à s'envenimer, il y aurait des répercussions sur l'outil de travail pour l'ensemble de la population.
Mais justement, vous aviez prévenu de cette coupure d'électricité ?
Oui, c'est ça. Et comment on peut prévenir comme ça qu'il y aura une telle action et que les gens ne réagissent pas derrière ? Ça semble fou quand même.
Bah, ça semble fou, mais comme ce qui se passe malheureusement aussi en face d'Enedis, au niveau de l'hôpital, vous avez vu qu'aujourd'hui, ça avait commencé sur la région par Laval, qui ne pouvait plus assurer ses missions le week-end. Et aujourd'hui, on est rendu à plus de 130 hôpitaux qui ne peuvent plus assurer l'accueil d'urgence. Donc oui, il y a plein de choses inquiétantes dans la période. Et on a quand même une sacrée surdité du gouvernement et de ses représentants, hein, qui étaient certainement plus préoccupés par les échéances électorales que la situation économique.
C'est comme si la menace que vous aviez fait peser de couper l'électricité n'avait pas du tout été entendue par les pouvoirs publics.
Voilà, et c'est vrai que c'est pas la première fois que ça arrive, donc c'est exceptionnel. Hein. Vous vous souvenez que c'est exceptionnel qu'on intervienne sur l'outil de travail et qu'on suspende aussi massivement des électrons là, au niveau d'une commune. Mais cependant, au vu des dernières années qu'on a passées, il faut que vous compreniez par exemple que dans la branche des IEG, c'est comme dans beaucoup d'entreprises, les augmentations générales des salaires depuis 10 ans, ça oscille entre 0 et 0,3%. Voilà.
Et pour revenir du coup sur cette coupure, est-ce que tous les membres de la CGT avaient soutenu l'action ou il y avait eu des désaccords ?
Comment est-ce que ça a été négocié en interne ?
Ah, ça se négocie pas en interne, c'est-à-dire que...
Entre vous, je veux dire.
Bah, une décision, entre guillemets, d'intervention sur l'outil de travail, comprenez comment ça s'organise dans la culture ouvrière, c'est-à-dire qu'il y a des appels à l'action, des appels à la grève, les agents se rassemblent, et c'est eux qui débattent entre eux de la situation et qui décident.
Et justement, comment sont passés ces débats ? Est-ce que les débats ont été houleux ? Est-ce que toute la CGT était porteuse de cette action ? Ou est-ce que finalement, il y avait quand même des disparités dans les discours ? D'autres qui disaient oui, c'est comme ça qu'il faut faire, d'autres qui disaient non, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Disons que là, c'est pas la CGT, hein, c'est une assemblée générale, c'est des salariés grévistes, donc il y a toutes les obédiences syndicales, on était dans le cadre d'une lutte intersyndicale, qui se rassemblent, qui analysent la situation et qui prennent des décisions. La CGT, elle est là pour accompagner les salariés, elle est là, elle aussi, pour faire en sorte qu'on respecte bien le droit de grève, ce qui est le cas. Après, oui, ça a des impacts.
Je pose la question, puisque parmi cette obédience de syndicats, ce regroupement de salariés, la CFDT, elle, s'est désolidarisée.
Ça dépend de laquelle, c'est ça qui est bien compliqué. Vous avez bien compris qu'il y a eu une déclaration, par exemple, de la CFDT Enedis, qui s'est désolidarisée de cette action, quand dans le même temps, vous avez la CFDT nationale RTE, qui se félicite de la journée de mobilisation du 2 juin.
Et vous, par exemple, comment vous l'avez ressenti, cette mobilisation, personnellement ?
Disons que pour qu'on en soit rendu à intervenir sur le réseau d'une façon aussi importante, c'est que la situation est très grave. Mais il faut bien imaginer ce que c'est qu'un conflit pour 5% d'augmentation. Je vous rappelle que dans le même temps, sur 12 mois, le SMIC, c'est 5,9% d'augmentation qu'il a. Quand pour beaucoup de salariés dans de nombreuses entreprises, il n'y a pas d'augmentation. J'étais aujourd'hui en Mayenne. Dans certaines entreprises, le patronat va être obligé de rehausser les salaires puisque les salariés se retrouvent au SMIC. C'est des salariés qui ont 10 à 15 ans d'entreprise. Le SMIC a été augmenté, mais pas les autres salaires. Vous n'avez pas oublié que l'année dernière, on était sur une année très difficile pour tout le monde. Eh bien, c'est l'année record au CAC 40. Plus de 130 milliards de profits.
Et finalement, la direction, comment elle a reçu cette action ? Est-ce que ça a permis d'ouvrir un dialogue ou pas du tout ? Au contraire, les gens se sont braqués.
Disons que depuis des années, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une énorme surdité des employeurs quant aux revendications des salariés. Malgré des démissions en masse, malgré des soucis récurrents maintenant de maintien de compétences, et dans les différentes entreprises, là où c'est le plus grave, c'est dans la production. Il faut imaginer, pour les centrales comme celle, par exemple, de Chinon, on a de grosses pertes de compétences, à tel point que ça met en péril le fonctionnement des outils, comme notamment les réacteurs nucléaires. Or, un réacteur nucléaire qui ne fonctionne pas, c'est 1 million par jour.
1 million par jour, là, les chiffres qui ont été cités, je crois qu'on est à peu près à 600 000, si je me souviens bien, 600 000 euros perdus.
Oui, c'est ça.
Par votre action ?
Par notre action, disons bien que le message qui est passé clairement aux préfectures, et ils l'entendent, et ils le voient aujourd'hui, puisque quand je vous parlais de collègues qui sont emmenés en conseil de discipline, ils sont aussi emmenés au commissariat par les employeurs. C'est-à-dire que c'est bien l'échec du dialogue social dans les entreprises qui amène les salariés à prendre des décisions plus déterminées sur la reprise de l'outil de travail.
Est-ce que ça marche?
Ce qu'on peut voir, c'est que dans certaines entreprises, en effet, ça permet de faire réagir le patronat assez rapidement.
Là,
la difficulté des entreprises comme les nôtres, et je fais toujours référence aux hôpitaux, c'est qu'en fait, à la tête de nos entreprises maintenant, ceux qui sont en responsabilité, c'est que les serviteurs d'un dogme qui est le libéralisme et qui est de livrer des outils hyper performants, production, transport, distribution, gaz, électricité en France. C'était l'électricité la mieux distribuée, la moins chère. Et sur le gaz, même si on n'est pas un producteur de gaz, on arrivait quand même à faire en sorte qu'en Europe, on ait des tarifs attractifs au niveau du gaz. Ce qu'on peut observer, c'est depuis 2005 qu'il y a le processus de privatisation. C'est que l'électricité, aujourd'hui, elle est indexée sur le gaz et que tout le monde y perd. Je pourrais vous donner plein d'exemples dans ce domaine-là. Donc il va bien falloir, entre guillemets, qu'il y ait des convergences entre les revendications des salariés, qui sont pour l'intérêt général. Je vous rappelle que la CGT, c'est elle qui a construit EDF-GDF en 1946, le statut du personnel, qui a permis que l'ensemble des citoyens, quelle que soit leur localisation, ils aient le même prix du kilowatt et qu'ils soient tous alimentés.
Mais pour revenir sur les procédures judiciaires qui avaient été entamées, donc il y a une enquête qui a été ouverte assez rapidement pour mise en danger de la vie d'autrui et atteinte à la liberté du travail. La communauté urbaine d'Angers a indiqué porter plainte. C'est quelque chose à laquelle il fallait s'attendre. Comment vous aviez préparé ça en amont ?
Disons que ce qu'on avait surtout préparé, c'est que les négociations puissent aboutir. Quand je vous dis la veille d'une nouvelle action nationale, les employeurs, alors qu'ils ont des salariés qui ne partent plus en chantier depuis 3 mois, qui eux ont fait des piquets de grève, qui ont été évacués, sachez-le, que ce soit Orléans, Saumur ou Nantes, c'est les CRS qui ont été envoyés pour donc, répondre aux problèmes de dialogue social.
Dans ce que vous dites, j'entends que la violence à l'encontre des salariés a engendré une autre forme de violence de votre part et que finalement on est dans une escalade et que c'est l'échec total du dialogue social. Comme si ce que mettaient en avant tous les syndicats, à savoir le dialogue social, finalement était voué à l'échec puisque ben, on n'arrive pas. Et finalement, il y a des poursuites qui sont engagées et on arrive à une sorte de cul-de-sac puisque c'est l'escalade de la violence.
Bah, et c'est d'autant plus surprenant, souvenez-vous, que le gouvernement, depuis le début de l'année, il a fait plusieurs annonces. Notamment, à plusieurs reprises, il a demandé aux entreprises qui avaient les moyens de revaloriser les salaires. La revalorisation des salaires dans les industries électriques et gazières, on a eu une sacrée augmentation puisqu'on était à 0,2 en 2021, on est passé à 0,3.
J'entends bien les revendications. Ceci étant dit, questionnons-nous simplement sur le mode d'action. Le mode d'action, là, on est dans un cul-de-sac. L'électricité a été coupée. Des collègues à vous ont été envoyés en garde à vue et des poursuites ont été engagées. Et finalement, rien ne bouge pour le statut des travailleurs.
Pour l'instant, mais ayez bien compris que ce qui s'est passé sur Angers, c'est qu'un avertissement. C'est-à-dire que si les employeurs et le gouvernement continuent de mépriser les salariés et les usagers, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a déjà eu une première augmentation de l'électricité au mois de janvier et qu'il y en a une autre au mois de juillet, et qu'il y en a d'annoncés pour 2023, qui sont largement au-delà de ce que peuvent supporter les gens. Il nous semble en effet qu'il est nécessaire de faire un électrochoc dans...
C'est le cas de le dire.
Voilà. Bah oui, puis après vous verrez qu'on parlera aussi des situations explosives, parce que malheureusement, sur la région, on a aussi un terminal méthanier gaz. Alors, peut-être que ça ne parle pas beaucoup aux gens, mais c'est les quelques bateaux en France qui ramènent du gaz. Or, ce qu'on sait déjà, c'est que la spéculation est en train de s'organiser pour cet hiver. On sait déjà que Engie va certainement détourner tous les terminaux méthaniers pour qu'ils aillent en Asie, faisant grimper le coût du gaz. Et je vous le rappelle, ils ont indexé le coût de l'électricité sur le coût du gaz. Or, si on a bien suivi les affaires, il y a une augmentation de 10% du coût de l'électricité qui arrive encore au mois de juillet. Et en sachant que les prévisions du gouvernement, c'est d'augmenter l'énergie électrique d'environ 40% en 2023. Alors moi, je voudrais juste informer l'ensemble des citoyens, qui sont pour beaucoup des consommateurs d'énergie, qu'il y a des choses incroyables qui se passent dans la privatisation. Depuis 2005, une partie, entre guillemets, de nos prérogatives nous est enlevée, et depuis 2010, il y a la loi sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité. Que tout le monde comprenne bien, EDF est tenu de fournir à ses concurrents qui n'ont pas d'outils de production, maintenant jusqu'à 50% de sa production de nucléaire, à un tarif extrêmement bas. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. Au travers de ça, un des nouveaux concurrents qui arrive sur le marché de l'électricité et qui n'a pas vocation à faire baisser les tarifs, c'est Total. C'est pour ça qu'en début d'année, il y a eu une nouvelle décision du gouvernement qu'EDF fournisse 20 TWh supplémentaires à ses concurrents, pour qu'ils puissent, entre guillemets, conserver leurs clients. Souvenez-vous, l'année dernière, marrant, les médias, on ne parle pas trop. C'est pas Leclerc, c'est pas des gros commercialisateurs d'énergie qui ont dénoncé leurs contrats auprès de leurs clients, parce qu'ils n'avaient plus de capacité de production pour leur fournir de l'énergie électrique. Ce que je veux dire par là, c'est que l'explosion des tarifs électricité, c'est flagrant en France.
Donc, dans ce que vous dites, j'entends qu'il y a deux revendications différentes, à la fois une augmentation du point d'indice de vos salaires, mais aussi une mise en garde à l'égard des citoyens que là l'électricité a été coupée par vous, mais que ce qui pourrait arriver dans le futur, c'est qu'il n'y ait plus d'électricité du tout, ou alors à des tarifs exorbitants.
Bah écoutez, sachez que par exemple là c'est la première.
C'est ça que vous êtes en train de dire.
Oui, mais complètement, puisque encore cette semaine, les agents, là c'est la distribution. Tout à l'heure on parlait du réseau de transport, hein, c'est les réseaux de transport, c'est 90 000, 220 000, 400 000 volts. Hein, les agents qui travaillent là-dedans, comprenez bien que même avec 5 ou 6 ans d'expérience, ils sont à 1400, 1500 euros. Hein, ceux qui font les travaux sous tension sur le 400 000 en hélicoptère, ainsi de suite. Et je reviens maintenant sur la distribution. La distribution, en ce moment, on est convoqué par les préfectures. Pourquoi ? Pour parler des plans de délestage. Vous m'entendez ? Les plans de délestage électrique et gaz pour cet hiver et sur 4 ans à venir. Je ne sais pas si les citoyens, si les entreprises, ils mesurent ce que ça va représenter pour elles. C'est-à-dire que là, on est déjà en train de demander aux gros industriels de pouvoir s'effacer sur certaines périodes. Mais s'ils s'effacent, tout à l'heure, vous m'avez parlé de chômage partiel, de chômage technique. Qu'est-ce qui va se passer pour ces salariés ? Et imaginez bien, en France, EDF était capable à une époque de vendre sa fourniture d'énergie électrique moins cher que son coût de revient pour soutenir l'entreprise des entreprises industrielles. C'était le cas de l'aluminium avec Pechiney. C'était des projets industriels. Aujourd'hui, l'énergie, qu'elle soit électrique ou gaz, elle est commune des actionnaires qui n'arrêtent pas de se faire énormément de profits au détriment de l'ensemble des consommateurs, qu'ils soient particuliers, collectivités, petites, moyennes ou grosses entreprises, et au détriment aussi des salariés au passage.
En tout cas, ça, effectivement, je suppose que sur le temps long, il va y avoir des répercussions. En tout cas, à l'instant T, Elisa, toi, tu es allée promener ton micro dans les rues d'Angers.
Ouais, le jeudi 2 juin, je devais réaliser un micro-trottoir à la base. Bon, c'était sur le bac. Finalement, avec la coupure, pendant 2 heures, j'étais chez moi à pas savoir ce qui arrivait. Donc je me suis dit, j'ai essayé d'appeler Hugo tant bien que mal, j'ai mis 30 minutes, c'était pas fou. Mais du coup, j'ai sorti mon micro et je suis allée demander aux gens comment c'était pour eux. Aux alentours de 11h, le jeudi 2 juin 2022, l'électricité a été coupée dans plusieurs communes du Maine-et-Loire et notamment à Angers. Comment fait-on lorsqu'on n'a plus de courant ?
Donc quand tu vois, on a des gros chantiers qui sont comme ça, on perd tout le matériel et on n'est pas au courant. Ils auraient au moins pu prévenir et mettre un message d'annonce quand même.
Ça nous embête pour tous les commerçants qui vont peut-être perdre leur bouffe au congélateur. C'est ce que je voulais dire, quoi. Je pense surtout aux restaurateurs là, qui doivent paniquer. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Pour les commerçants et artisans, c'est aussi une journée compliquée. Ils témoignent.
C'est vexant, mais ça serait bien qu'ils défilent dans la rue et qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont besoin, qu'on puisse savoir, nous, parce qu'on l'a toujours payé, l'électricité, jusqu'à maintenant, même très cher. Pourquoi tout d'un coup on nous la coupe ? J'aimerais bien qu'ils nous expliquent.
Nous, on a travaillé, mais donc pas de TP, pas de caisse. Donc on a noté sur des à l'ancienne, sur des cahiers, sur des feuilles, et on a encaissé en liquide. On espère que ça va pas recommencer, quoi. Sinon, on va faire une grosse perte de chiffre d'affaires. Ouais.
Un peu compliqué parce qu'on avait des clientes qui étaient dans le salon, donc pas pouvoir leur couper, enfin finir leur coupe, leur sécher leurs cheveux, donc elles sont parties les cheveux mouillés. On n'a pas pu prévenir nos clientes déjà, donc elles sont arrivées et puis reparties.
Sans réseau internet, celles et ceux qui travaillent à l'Université catholique de l'Ouest ont également été touchés.
J'étais en réunion avec une personne à distance, donc on a continué la réunion sans la personne à distance, mais beaucoup de questions, on s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe ? Plus de téléphone, plus de réseau, plus rien. Moi, je me suis adaptée, mais quand je suis ressortie de ma réunion, tout le monde courait partout, tout le monde s'inquiétait. Donc beaucoup d'inquiétude, beaucoup de panique au sein des bureaux.
Même situation où j'étais en réunion et où il fallait prendre des notes en même temps. Et donc ça veut dire d'un seul coup, plus d'ordi, plus de réseau, plus rien. Donc on est reparti sur une version papier et heureusement que ça n'a pas duré plus longtemps.
En pleine période d'examen, les étudiants ont eux aussi vu leur journée bousculée et leurs épreuves reportées.
Pour l'instant, on ne peut pas relancer les machines. On travaille à l'école des Beaux-Arts. Et du coup, tout ce qui concerne les machines électriques, bien, ça ne fonctionne plus. Et ouais. Donc là, on est en plein diplôme. Donc il y a des étudiants qui sont coincés aussi.
Ils ne peuvent pas passer leur diplôme. Ceux qui avaient, par exemple, des vidéoprojecteurs ou plein de choses liées à l'électricité, quoi.
Et nous, on est en cinquième. Et aujourd'hui, on est censé passer la SSR. Et du coup, on ne pourra pas à cause de la panne d'électricité, comme il n'y aura pas d'ordinateur.
Quelques jours après l'incident, les artisans et commerçants sont toujours impactés et demeurent frustrés.
C'est vrai que par contre, tout ce qui était surgelé, notamment les glaces, tout a été perdu. Ça représente quand même 400 euros de marchandises. On a perdu du chiffre d'affaires puisqu'on ne pouvait rien faire en chaud. Voilà. Et donc là, on est en train de regarder avec notamment la CCI les recours potentiels. Je suis en train de voir aussi avec mes assurances. Voilà, mais c'est une perte de temps pour nous, une perte d'argent. Voilà.
Ouais, on était en plein tatou, donc c'est très compliqué, quoi. Les machines sont éteintes, donc on a dû reprendre rendez-vous pour finir les tatous. Puis on a beaucoup de gens aussi qui viennent d'ailleurs, quoi, donc pas d'Angers forcément, donc c'est compliqué aussi de reprendre rendez-vous pour eux, donc on ne sait pas du tout comment ça va se repasser. Et puis s'ils vont revenir aussi, quoi. Surtout ça.
L'après Covid, là, c'est toujours dur pour nous. Hein. Ah oui, c'est très très difficile. Hein. Les bars, ça va, mais les restaurants qui ne sont pas sur les grands artères, ils souffrent toujours de l'après Covid. Donc perdre encore 15 clients, c'est beaucoup, c'est énorme pour le midi.
5 clients, c'est
j'étais énorme. Tellement content de cette réservation, j'étais là depuis 10 heures. Et puis entre 10h et 10h30, j'ai commencé à travailler, pouf, il n'y a plus de courant. Voilà. C'est décevant.
Un reportage donc Elisa que tu allais faire dans les rues d'Angers le jour de la coupure d'électricité.
Et par ailleurs, ces gens-là n'étaient pas les seuls impactés. Les services hospitaliers, les gens bloqués dans les ascenseurs. C'était aussi près de 2500 mètres cubes d'eau usée qui ont été déversés dans la Maine, car les stations d'épuration étaient à l'arrêt. Vous, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces témoignages-là ?
Bah, c'est regrettable hein, pour tous les usagers, tous les citoyens qui ont vécu ça cette journée-là. Après, malheureusement, permettez-moi de relativiser. D'une part, je vous ai évoqué tout à l'heure l'explosion déjà des tarifs, avec des conséquences importantes sur les professionnels que vous avez cités.
Excusez-moi, et c'est à venir. Je vous coupe, mais relativiser pour vous, qui êtes à l'origine de l'action, possible, mais pour cette petite mamie qui était coincée dans son ascenseur, qui n'a pas pu recevoir les soins, pour les 2500 mètres cubes d'eau usée qui ont été déversés dans la Maine,
pour ce mec qui galère déjà avec son restaurant, qui a une réservation alors que ça lui faisait peut-être sa semaine, enfin voilà. Il y a des gens pour qui c'est compliqué.
Et en fait, toutes les revendications sont légitimes, mais relativiser, c'est compliqué.
Alors, pourquoi je dis relativiser ? Tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple de l'hôpital. Là, on a des professionnels qui ont perdu de l'argent, comme beaucoup qui se font faire les poches par les actionnaires dont je vous parlais tout à l'heure.
Oui, c'est un autre sujet.
Non, laissez-moi terminer, parce que vous me posez des questions, je vais développer. Ensuite, vous me parlez des personnes qui sont restées coincées dans les ascenseurs. Moi, je vais vous parler aussi de tous ces gens qui n'ont pas accès aux soins, que ce soit en rural ou en urbain. Mais... Ensuite, vous me dites, ça fait 170 000 abonnés. Eh bien, par exemple, au RTE, je peux vous dire qu'il n'y a pas très longtemps, c'est 1,5 million d'abonnés qui ont été coupés sur des défauts de maintenance. Malgré que nous, la CGT, on dénonçait le fait qu'il fallait absolument remplacer les combinés de mesure et qu'on nous disait que ce n'était pas urgent. 1,5 million. Là, récemment encore, sur du SF6, qui a un fort, vous m'avez parlé des eaux usées, qui a un fort impact sur l'environnement, les agents des équipes du RTE. Il demande à faire des réparations, c'était le cas au mois de novembre, sur un gros poste qui sort de la centrale de Chinon, où là on a du SF6 qui fuit, on avait le matériel, on avait les équipes, tout pour faire. Les responsables ont refusé, et entendez bien, quand on est pendant le conflit, là par contre, on peut avoir certains de nos responsables hein, qui disent en urgence « faut y aller » et qui insultent les salariés s'ils vont pas. Donc je pense qu'il faut raison garder et bien mesurer ce qui se passe. C'est-à-dire que depuis des années, il y a une dégradation pour tous les professionnels. Je vous rappelle, que, et c'est facile à retenir, 300% d'augmentation du gaz. Alors les professionnels de la restauration, les professionnels des salons de coiffure, qui chauffent au gaz, est-ce qu'eux, ils ne se sont pas fait spolier depuis plus de 15 ans par la privatisation du secteur de l'énergie ? Et est-ce que ça n'a pas conduit certains, entre guillemets, à la banqueroute ?
J'entends,
ça, faut se poser ces questions-là.
J'entends tout ce que vous dites. Ceci étant dit, est-ce que vous avez l'impression, puisque, comme le disait une personne dans le micro-trottoir, est-ce que vous avez l'impression que les gens entendent le pourquoi du comment de ce que vous avez fait ?
Bien sûr que non. Pourquoi ? Parce que vous avez bien compris qu'à part quelques médias comme vous, les médias, ils sont aux mains de qui ? Ils sont aux mains de ceux qui sont en train d'organiser la privatisation des services publics pour grossir leurs intérêts. Donc quand on essaie, nous, de faire des conférences de presse, quand on essaie de passer des communications sur ce qui se passe, sur l'électricité et le gaz, et vous croyez qu'on est interviewé ? Le soir même du jeudi, j'ai un de vos confrères, RMC, qui m'appelle et qui veut me shooter en direct. Ça dure un quart d'heure. Est-ce qu'ils vont passer une seule seconde de mes propos ? Non, pourquoi ? Parce que ça ne les intéresse pas. J'ai parlé des raisons du service public. Lui, il voulait, entre guillemets, qu'on dise « Ah, c'est vous la CGT ?» Mais non, la CGT, elle organise des luttes. Après, c'est les salariés qui décident en Assemblée Générale des actions. C'est exceptionnel qu'il y ait une intervention sur le réseau. Moi, ça fait plus de 37 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai jamais vu des interventions comme ça. C'est pour vous dire qu'en 2018, il y a eu un mouvement de colère des citoyens et des artisans ou des commerçants qu'on a entendus et qui ont raison d'être en colère et qui vont porter plainte contre les entreprises. Ils ont raison parce que si ça s'est passé, c'est un défaut, entre guillemets, de dialogue social dans les entreprises qui sanctionne les mêmes salariés qui défendent l'intérêt de tous les usagers qu'on a entendus là.
Donc finalement, vous comprenez l'incompréhension et la frustration, voire la colère
des gens. Mais sachez que ça fait depuis le 2, mais même avant, on avait demandé un rendez-vous avec la préfecture, avec le directeur régional du RTE pour avancer. Refus. Là, depuis le 2, tous les jours, j'ai des renseignements généraux pour avoir le rendez-vous avec le préfet. Certes, il y a les élections, mais vu l'importance de ce qui s'est passé, pour l'instant, on n'a toujours pas de rendez-vous. Et on dit bien, il faut calmer le jeu. Parce que si on ne calme pas le jeu, il y a ce que vous avez subi, entre guillemets, sur Angers, et qui a été médiatisé. Mais sachez que dans la même nuit, il y a eu des gros déclenchements en Sarthe, en Mayenne, en électricité et en gaz. sur la Loire-Atlantique pour parler que de la région Pays-Loire. Et c'était pas la première fois qu'il y avait des interventions sur le réseau. Sauf qu'il y a un mutisme incroyable des médias, qui, on l'a compris, hein, on l'a vu avec les différentes élections, on voit comment ils arrivent à instrumentaliser tout le monde, à faire peur à tout le monde, et surtout pas donner les bonnes informations. Parce que nous, pour soutenir l'activité économique, c'est ce qu'on propose, nous, avec notre programme progressiste de l'énergie, nous qui avons créé la nationalisation. C'est pas le patronat qui a créé EDF et GDF. Je vous rappelle que le ministre qui a créé EDF-GDF, la nationalisation, qui permet sur l'ensemble du territoire d'avoir le même coût du kilowatt, c'est Marcel Paul. Marcel Paul, qui était ministre communiste, eh bien, c'était le secrétaire général de la Fédération nationale de l'énergie à l'époque, et qui s'est battu et qui a fait la démonstration avec Boiteux, qui était le président d'EDF, qu'on avait vocation à produire, à transporter, à distribuer à tout le monde 24 heures sur 24. Or, là, les Angevins, qui sont en milieu urbain, oui, ils ont une coupure exceptionnelle, mais malheureusement, je sais que ce n'est pas les médias qui leur disent, mais si vous êtes en rural, ça vous arrive beaucoup plus régulièrement, puisqu'à partir d'une certaine heure, on ne va plus dépanner. Même si c'est un petit hameau avec différents citoyens, dont des paysans. Non, on ira le lendemain. Et le lendemain, il ne faudrait pas qu'on ait d'autres pannes plus importantes avant, sinon ils attendront.
Donc là, c'est comme si vous aviez simulé une panne géante ?
Bah, disons que c'était pas le but. Le but, c'était qu'une réaction. Après, ça ne devait pas durer.
Est-ce que vous êtes content, justement, de la réaction qui a été celle de l'agglomération, mais aussi d'un tout un consortium d'entreprises qui ont décidé de porter plainte, puisque finalement, on parle de vous ?
Bah, malheureusement, c'est un peu ce qu'on disait à nos employeurs, parce que vous imaginez, bon, vous faites une journée, deux journées, une semaine de grève, vous dites, bon, ça va commencer à évoluer. Là, on était quand même à 13, plus de 3 mois de grève. Plus de 3 mois de grève, avec des agents hyper confirmés, hyper qualifiés, qui connaissent très bien leur boulot, et avec des employeurs qui méprisaient tout le monde, qui ont mis des gardiens tous les jours pour surveiller les agents, alors que tant qu'on n'a pas été délogé par les CRS sur les sites, il ne s'est rien passé. On n'est jamais intervenu sur l'outil de travail. Dès que nos employeurs ont été chercher les CRS pour déloger les salariés pacifiques qui étaient sur la grève, le conflit, sans gêner personne, pour avancer sur leur rémunération, oui, là, ça s'est tendu. Comme ça s'est tendu, souvenez-vous aussi, avec les citoyens gilets jaunes, quand les forces de l'ordre, au bout d'un certain temps, sont venues, entre guillemets, agresser les citoyens qui manifestaient.
Et pour finir, vu qu'on vient d'entendre ce témoignage d'un commerçant qui m'a paru fort et qui illustre un peu le contraste entre la réalité des agents de l'énergie justement et celle des commerçants qui peuvent quand même eux aussi être dans des situations de précarité, il nous dit « Nous on l'a toujours payé l'électricité et même très cher, je comprends pas pourquoi on nous la coupe tout d'un coup. Comment vous le recevez ?»
Ah mais moi je comprends entre guillemets son exaspération et la CCI elle fait bien de porter plainte contre les entreprises. C'est ce qu'on a expliqué au préfet. On attend d'être convoqué par le préfet de région aussi pour aborder ces questions-là.
Comment ça porter plainte contre les entreprises ? La CCI porte plainte contre une entreprise, elle ne porte pas plainte contre X ?
Ah mais elle va porter plainte, entre guillemets, contre les entreprises qui sont sur transport et distribution d'électricité. Eh oui, puisque c'est elle qui aurait pu mettre aussi beaucoup moins de temps pour établir. Quand on vous dit qu'aujourd'hui, après 21h, vous appelez, vous êtes sans électricité, vous n'aurez pas de dépannage.
En fait, pour vous, les plaintes, c'est une bonne chose. Parce que ça va permettre de faire bouger les lignes à l'intérieur de ces...
Mais sachez par exemple que la CGT, déjà en 2005, et sur le département, on avait fait 4 forums où on a invité les préfets, les sous-préfets quand on était à la maille des sous-préfectures, nos responsables d'entreprise, les professionnels, qu'ils soient collectivités, qu'ils soient petites, moyennes entreprises, et les citoyens, à débattre du processus de privatisation. On a voté au niveau du CSE d'Enedis, la région Pays-Loire, un nouveau budget pour organiser des nouveaux forums sur les questions énergétiques au deuxième semestre sur l'ensemble de la région Pays-Loire. Et là, on invite tous les citoyens, professionnels ou autres, à venir débattre avec nous. On va inviter bien sûr tous les médias et on va faire la démonstration de ce qui se passe avec le processus de privatisation. Mais justement, quand on parle des artisans, des commerçants, qui comprennent bien ce qui se passe dans l'énergie, est-ce que vous pensez qu'un boulanger aujourd'hui, il accepterait que quelqu'un qui ne fait pas la pâte, qui ne fait rien, vienne le voir un matin en lui disant ce matin, je te prends 50% de ta production, allez à un tarif négocié à 20 centimes, quand la baguette, il va la vendre à 60 ou 70 derrière. Est-ce que vous pensez seulement qu'il y a un seul artisan qui va accepter ça ? Eh bien, il faut que les citoyens français comprennent que nos politiques, qui sont en train de vouloir se faire énormément de profits sur l'énergie, depuis 2011, et d'année en année, ça ne fait qu'augmenter, EDF nucléaire est tenu de fournir maintenant 45% de sa production nucléaire à 42 euros le mégawatt. Je vous rappelle que le mégawatt, il n'y a pas très longtemps, la moyenne c'était du 250-300 euros. Donc nous on est tenu de fournir, quand ils ont envie, la moitié de notre production nucléaire à 42 euros le mégawatt. Et je vous rappelle que les mêmes, avec les fonds de pension qui ont investi dans les éoliennes et ainsi de suite, hein, la fameuse ligne sur vos factures, la CSPE, 115 milliards d'euros en 15 ans, eh bien là, on va racheter de l'énergie 200, 300, 400, 500 euros le mégawatt, quand nous, on est obligé de le donner 42 euros à nos concurrents. Et après, si les gens ne comprennent pas pourquoi les factures, elles augmentent, eh bien comprenez bien qu'il y en a en ce moment, ils se font des milliards et des milliards sur le dos de l'ensemble de ces clients qu'on a entendus de par la coupure spectaculaire qu'il y a eu le jeudi 2 juin. Et il faut imaginer qu'en France, ça se dégrade. Mais dans le monde aujourd'hui, s'il y a des guerres dans le monde, avec toutes les répercussions que ça peut avoir pour tout le monde, c'est lié à la spéculation qu'il y a sur tout, et notamment l'énergie. On va le voir sur le blé, on l'avait vu avant sur le masque, on le voit sur tous les produits. Et là, il n'y a aucune régulation. Mais qu'on continue à plus avoir de régulation, ça va être la guerre. Et en plus, les conditions environnementales, faut qu'on soit très raisonnable sur ce que c'est que la mixité des outils de production d'énergie, qu'ils soient gaz ou électricité ou autre.
Je vous remercie, Jean-Marc Bozani, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle qu'une enquête est en cours et que l'agglomération d'Angers souhaite porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et atteinte à la liberté du travail.
Et pour en savoir plus, donc rendez-vous à vos forums. Est-ce que vous avez peut-être une date à nous annoncer ?
On n'a pas encore les dates, mais par contre, si je peux me permettre, sur YouTube, main basse sur l'énergie, gaz et flouze à tous les étages, c'est deux films que la CGT a fait avec Gilles Balbastre, celui qui avait déjà fait les chiens de garde, pour dénoncer ce que vous disiez tout à l'heure, comment se fait-il que dans les médias on n'arrive pas à s'exprimer. Et ces deux films, qui sont en accès libre, ils permettent à tout le monde de comprendre ce qui se passe sur le gaz et l'électricité. Et je vous rappelle aussi qu'on distribue, je termine par ça, notre quatrième 100% public, qu'on distribue à chaque fois à 500 000 exemplaires et qui a vocation à aider tous les usagers, tous les citoyens, professionnels et élus, à comprendre ce qui se passe dans l'énergie. Et nous, on a des propositions pour faire en sorte que l'augmentation de 40% qui est prévue l'année prochaine, elle soit diminuée par deux, facilement.
En tout cas, on espère que grâce à tous ces outils, le dialogue social pourra reprendre, puisque sans dialogue social, on en arrive à des situations extrêmes comme celle-là, et c'est bien regrettable. Merci beaucoup Jean-Marc Bozani d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
C'est la fin de ce pédalo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès demain, et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.